Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour la victoire que tu as remportée à Golgotha. Tu es mort sur la croix, Seigneur, mais la croix ne t'a pas retenu. Autant on s'est velu, Seigneur, le tombeau ne t'a pas retenu, Seigneur. Au matin du premier jour de la semaine, tu as proclamé la victoire sur le mal par la résurrection. Seigneur, nous prions que tu continues à proclamer cette victoire en ressuscitant chacun de nous. Seigneur, peut-être que nous avons fondu dans plusieurs choses. Nous nous retrouvons dans le centre, Seigneur. Seigneur, ressuscite-nous. Ressuscite les activités de chacun de nous par cet acte de communion que nous venons de faire avec toi, Seigneur. Car c'est toi qui es notre victoire. C'est toi qui nous permet de marcher victorieusement contre les ruses du diable et contre les tromperies de ce monde. Seigneur, rends-nous la force de te demeurer fidèle jusqu'à ce qu'un jour nous puissions prendre de ces vins nouveaux avec toi dans le royaume des cieux. Seigneur, nous sommes prêts à écouter ta parole. Parle à ton serviteur, Seigneur, afin que nous tous, nous soyons édifiés et transformés par ta parole. Bénis-nous, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit donnée en partage. Amen. Je me tiens debout au-devant de nous, de vous, mais c'est parce que j'ai reçu une grâce d'être là ce matin avec vous pour partager la parole de Dieu. Et moi, c'est Pasteur Kamabou et je suis un des pasteurs de Goma Ouest. Une église que vous connaissez bien parce que vous êtes l'église mère, comme on l'a toujours dit. J'ai été là aussi comme pasteur, mais après un certain temps, nous sommes allés à Goma Ouest. Et l'église de Goma Ouest permet que je puisse le faire au nom de cette église. Elle vous transmet ses cordiales salutations à Christ. Amen. Voilà, aujourd'hui, nous allons partager la parole ensemble. Autour du grand thème, souvenez-vous de ceux qui vous ont annoncé l'Évangile. Souvenez-vous de ceux qui vous ont annoncé l'Évangile. Le premier texte que nous allons prendre se trouve dans 1 Samuel, dans l'Ancien Testament donc. 1 Samuel, au chapitre 12, versets 1 à 5. 1 Samuel, chapitre 12, versets 1 à 5. Mais avant que je les lise, je voudrais aussi vous présenter mon épouse, parce qu'elle ne suis pas venue seule. Oui, Asnat Soeranda, tu peux te mettre debout et saluer l'Auguste Assemblée. Oui, c'est elle, mon épouse, elle s'appelle Asnat Soeranda. Bien, nous allons lire le premier texte, et puis ensuite nous allons prendre le deuxième. Dans le Nouveau Testament. Je vais lire au nom de Jésus. Samuel, c'est à partir du verset 5 jusqu'au verset 9. Il reprit, « L'Éternel est donc témoin devant vous. Et celui qui a reçu l'onction de sa part l'est aussi aujourd'hui. Vous n'avez rien trouvé à me reprocher. Et le peuple confirma, oui, il en est témoin. C'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron et qui a fait sortir nos ancêtres d'Égypte. Maintenant, donc, comparaissez à sa présence. Je vais vous citer tous les actes puissants qu'il a accomplis pour vous sauver, vous et vos ancêtres. Nous allons sauter dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux. Hébreux 13. Et je veux seulement lire un verset, Hébreux 13, et vous pouvez exploiter les autres versets à partir du 5e verset. Hébreux 13, chapitre 13, verset 7, vous dit « Souvenez-vous de vos anciens conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'aboutissement de toute leur vie et imitez leur foi, parole du Seigneur. » Je disais donc que le thème de notre méditation de ce matin, c'est « Souvenez-vous de ceux qui vous ont annoncé l'Évangile. » Et vous le savez que la plupart de ceux qui vous ont annoncé l'Évangile, il y en a ceux qui sont actifs encore, et ils vont le rester pendant un certain temps, et d'autres qui sont déjà à la retraite. Mais je vais d'abord commencer par la méditation autour du texte de 1 Samuel, et qui nous parle de Samuel. D'abord, à travers le thème que vous venez d'écouter, ça veut nous conduire dans une sorte de reconnaissance que nous sommes redevables vis-à-vis des gens qui nous ont précédés. Nous sommes redevables, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Et c'est une manière aussi d'honorer Dieu parce que ces gens qui nous ont précédés nous ont fait du bien. Ils nous ont enseigné le chemin à suivre. Ils nous ont enseigné combien que nous tous avons besoin du salut de Dieu. Les gens qui nous ont précédés, ça peut être nos parents. C'est que nous sommes aussi redevables vis-à-vis de nos parents. Parce qu'il s'agit de la redevabilité entre les générations. Parents et enfants. Il s'agit des deux générations qui sont distinctes et qui se décalent. Redevables vis-à-vis des gens qui nous ont apporté l'Évangile. Les parents ont assumé leurs responsabilités et ce qu'ils demandent de nous, c'est d'être responsables vis-à-vis d'eux. Ils ont pris soin de nous. Et cela se manifeste à travers de petits gestes, de petits signes dont nous sommes bénéficiaires tout le long de notre existence. Mais nous devons reconnaître qu'à un moment donné, les parents, ou tes parents biologiques n'auront plus de force, c'est que c'est à toi de penser à leur vie. Il y a aussi les pasteurs qui sont là. Nous allons y revenir quand nous serons en train d'analyser le texte autour de Hébreux. Mais déjà, dans le premier texte que nous avons lu, il s'agit de Samuel qui est en train de faire un discours d'adieu, un discours d'au revoir devant le peuple d'Israël. Certes, le texte, si vous le lisez à partir de versets qui sont un peu en haut, vous trouverez là que Samuel est conscient de ce qu'il est en train de devenir. Et alors, dans les discours d'au revoir, il faut voir dans tous ces discours qu'il y a trois thèmes qui reviennent à la surface. Dans les discours d'adieu ou d'au revoir, on a toujours présenté ce qu'on a été, ce qu'on est. Disons ça comme ça. Ce qu'on a fait et les perspectives par rapport à la communauté à laquelle on s'adresse. Un discours de Samuel qui est un discours du départ à la retraite. Ce n'est pas mon discours, même si je suis candidat. Mais c'est le discours de Samuel devant le peuple d'Israël. Il commence par leur présenter qui il a été. D'abord, il s'est dit qu'il est devenu vieux, il reconnaît qu'il y a aussi le poids de l'âge qui est là, qu'on ne restera pas toujours jeune. Il y aura un moment donné où les jours vont décliner et que là, on va commencer à devenir vieux. Il continue à dire, ses cheveux étaient déjà poivrés, étaient déjà devenus blancs. Et il dit, il a dirigé le peuple de Dieu depuis sa jeunesse. Et ses enfants sont aussi parmi le peuple de Dieu. Il se reconnaît lui-même faire partie entière de ce peuple de Dieu que Dieu lui-même a sauvé depuis l'Égypte. Il continue en disant qu'il s'est comporté d'une manière digne devant le peuple d'Israël. Il s'est comporté d'une manière digne avec droiture et justice. Et comme si cela ne suffisait pas, il dit qu'il n'a pas accepté toute corruption. Il n'a pas accepté la corruption dans toutes ses formes. Il n'a opprimé personne. Et il n'a pas été partial. Quel joli discours de ce qu'on a été. Mais il ne s'était pas limité là-bas. Mais il s'est dit qu'il a reçu une onction particulière de la part du Seigneur pour devenir roi et prophète en Israël. Pour devenir roi, parce qu'il était le premier, et pour jouer le rôle de prophète en Israël. Voilà un homme qui était devant un peuple de Dieu et qui se reconnaissait que c'est lui qui a conduit le peuple politiquement parce qu'il était roi et conduit le peuple spirituellement parce qu'il a joué le rôle de prophète en Israël. Et quand Dieu l'a oint d'une onction particulière, il s'est appliqué à la responsabilité vis-à-vis du peuple d'Israël. Mais bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu place à toi une onction particulière, c'est que tu as des responsabilités que tu dois assumer. Hello les papas. Hello les papas. Est-ce que vous êtes là? Ah oui, j'attends de voir Rock. C'est qu'ils sont là. Écoutez ce que la parole de Dieu veut vous dire ce matin. Ce n'est pas pour rien que Dieu vous a donné une femme. C'est vrai ou c'est faux? Ce n'est pas pour rien que Dieu vous a donné des enfants. Vrai ou faux? Il veut à ce que vous fassiez quoi? Vous assumiez votre responsabilité. Et quand vous êtes père de famille, c'est que vous êtes à la fois qui roi et prophète au sein de cette famille. Je ne veux pas aller au-delà pour vous rappeler aussi votre fonction de sacrificateur au sein de la famille. Et Dieu vous demande d'assumer cette responsabilité devant le Seigneur. Vous êtes roi de votre petite maisonnée. Vous êtes prophète de votre petite maisonnée. En tant que père de famille, c'est que vous êtes tous là et vous devez exercer cela comme devant le Seigneur. Et alors, vous trouverez que beaucoup de parents ne rentrent pas dans cette dynamique d'exercer leur responsabilité en tant que roi et prophète. Ils commencent à se dire comme si les enfants grandissent dans la nature, quoi. Et comme si c'est la nature qui a donné naissance à ces enfants-là. Parce que vous avez vu la nature porter la grossesse. C'est la maman qui porte la grossesse, n'est-ce pas? Et ce n'est pas pour rien que Dieu vous a donné cette onction particulière, mes bien-aimés. C'est pour que vous puissiez rendre des comptes, que vous soyez redevables vis-à-vis de la famille ou de votre famille. Vous devez exercer votre autorité devant le Seigneur. Et cette autorité, ce n'est pas pour opprimer les membres de votre famille. Ce n'est pas pour opprimer, mais c'est juste pour faire des choses bien et pour accorder aussi la grâce à ces enfants que vous êtes là pour diriger, sur lesquels vous exercez votre autorité pour que ces enfants aient des souvenirs positifs vis-à-vis de vous. Alléluia. Maman, quand vous assumez votre responsabilité en tant que mère, est-ce que vous placez dans le cœur de ceux qui sont dans votre maisonnée le souvenir de dire que oui, nous avons une mère et une mère qui prend bien soin de nous? Il s'agit de prendre soin de tout le monde qui est dans votre maisonnée. Voilà que Samuel a eu cette grâce-là et l'a bien assumée. Et avant de quitter, de rentrer en retraite, il a demandé à ce que le peuple soit avec lui. Et il a commencé par témoigner de cela. Et le peuple a acquiescé parce qu'il a été témoin de ce que Samuel a été parmi le peuple de Dieu. Est-ce que les gens avec lesquels nous vivons peuvent témoigner de ce que nous sommes réellement? Et comment que nous exerçons notre autorité? Est-ce que c'est de façon partiale ou de façon impartiale? Ça, il s'agit d'une question à laquelle chacun et chacune d'entre nous devra y répondre. D'abord en tant que parent, en tant que responsable. Mais bien aimé, n'oubliez pas que nous sommes redevables vis-à-vis des gens qui nous ont précédés. On a toujours raconté des histoires qu'un jour, un papa avait ses enfants et à chaque fois quand ils allaient auprès de leur papy, le papa pouvait, se débarrasser des habits qui n'étaient plus à bon état et on allait les déposer auprès de papy. Et quand lui-même aussi était devenu âgé et qu'il avait des cheveux blancs et que ses propres enfants devaient aller lui rendre visite, il venait avec des habits délavés. Et il commençait maintenant à rouspéter, à dire n'importe quoi. Comment ça se fait que vous, les enfants, vous pouvez aussi me traiter de la sorte? Et les enfants lui disent, c'est de cette manière-là que tu traitais ton père et nous avons suivi ton modèle. Et il était confus comme pas possible. Mes chers parents, nous devons veiller sur notre manière de vivre avec les enfants. Pour qu'un jour, les enfants puissent avoir des souvenirs et des souvenirs positifs vis-à-vis de nous et être reconnaissants par rapport à ce que nous avons été au-devant d'eux. Je vous ai dit que la deuxième des choses, ce que l'Église doit savoir aussi, chaque membre de l'Église doit savoir, il doit savoir comment être redevable vis-à-vis, chaque membre doit savoir ça, être redevable vis-à-vis de ses conducteurs. En vous souvenant de vos conducteurs qui sont à la retraite. Être redevable, se rendre compte devant Dieu de la manière d'être, ou plutôt de nous comporter, la manière de nous comporter vis-à-vis de ce que le Seigneur nous a donné comme des conducteurs et nos conducteurs spirituels. Vous êtes témoins qu'ils ont fait un travail remarquable. Je vais juste vous mettre en face par rapport à quelque chose que vos conducteurs, qui sont vos pasteurs, font à chaque fois. Ils demandent juste à être reconnaissants par rapport à ça. D'abord, avant que vous ne naissiez, il priait pour vous. Avant que vous ne soyez là, vos conducteurs que vous connaissez et d'autres que vous ne connaissez pas, priaient pour vous. Quand il y a eu la grossesse, quand maman a appris qu'elle était enceinte, ils ont continué à prier pour vous pour que la gestation soit bonne. Et pendant que vous êtes là, quand elle donne naissance à vous, les conducteurs, vos conducteurs sont là, continuent à prier pour vous. Et quand vous grandissez, vous êtes l'objet de leur prière. Et quand vous devenez grand, grande fille, grand garçon, et que vous voulez vous marier, vos conducteurs sont à côté de vous. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Alléluia! Amen, amen! Quand vous allez fonder votre foyer, vos pasteurs sont à côté de vous. Et je vais aller même au-delà. Quand vous allez mourir, c'est le pasteur qui va vous inhumer. Et pourquoi ne pas être reconnaissant à l'égard d'une personnalité comme celle-là dans votre vie? Pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître la place de votre pasteur ou la place de vos pasteurs dans votre vie? Mais bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes dans l'obligation, je dis bien, vous êtes dans l'obligation de prendre en charge vos pasteurs quand ils seront à la retraite et ceux qui sont déjà partis à la retraite. Il s'agit d'une obligation, ça ne se négocie pas, mais bien-aimés dans le Seigneur, ça ne se négocie pas, d'autant plus que les pasteurs que vous avez connus et les pasteurs que vous n'avez pas connus, ils restent toujours vos pasteurs parce que d'une manière ou d'une autre, ils sont présents dans votre existence en tant qu'individu, oui, en tant que couple et en tant que famille. Ils ont été envoyés par Dieu auprès de vous pour que vous puissiez aussi, de votre côté, expérimenter la joie d'être reconnaissant. Alléluia. La joie d'être reconnaissant. Vous savez bien que la reconnaissance produit la joie. Quand tu te dis que moi-même aussi, je ne vais pas rester muet par rapport à l'action, mais je sais bien que ce pasteur-là m'avait béni un jour. Ou un autre qui serait comme lui m'aurait béni un jour parce qu'il avait, il m'avait conduit sur le chemin de la connaissance de qui est notre Dieu. En conclusion, mes bien-aimés, je voudrais attirer votre attention sur la vie de Samuel en tant que roi et prophète qui doit nous inspirer. Samuel a été vrai et véridique devant le peuple d'Israël, devant le peuple sur lequel il était appelé à exercer son pouvoir. Il a été vrai. Et le peuple a témoigné positivement de lui. Mais il arrive des fois, devant ceux qui sont dans nos propres maisonnées, nous ne sommes pas vrais. Il y a des papas qui sont devenus, entre guillemets, des frappeurs, même au sein de leur famille. C'est vous qui utilisez ce terme-là. Je l'emprunte de vous, les jeunes. C'est que vous avez bien compris ce que je veux dire. Papa, est-ce que vous vous reconnaissez des frappeurs dans la famille? Nous ne sommes pas vrais, nous ne sommes pas véridiques. D'ailleurs, si vous voulez savoir si papa est véridique et vrai, il faut aller du côté des filles. Parce que ce sont les filles qui nous talonnent, nous les papas. Comme il n'y a pas papa, il y a un peu. Des frappeurs de papa. Mes chers papas, nous avons tous intérêt à revenir encore à la croix. Parce que c'est là que nous pouvons encore être véridiques dans ce que nous faisons. Il arrive des fois où les enfants entendent ce qu'on dit de nous à l'extérieur de la maison. Et parfois, il se pose la question, est-ce mon papa dont il est question ou c'est un autre papa que je ne connais pas? Parce qu'il y a un décalage entre ce que nous sommes dans nos propres maisonnées et à l'extérieur de nos propres maisons. Des fois, nous ne nous comportons pas d'une bonne manière à l'intérieur comme à l'extérieur de nos maisonnées. Chers parents, nous devons faire gaffe par rapport à notre attitude. Comment nous traitons les gens qui sont dans notre propre maisonnée? Nous devons rejeter l'indifférence, mes chers papas, quant à l'éducation de nos enfants. Rejeter l'indifférence, cela veut dire quoi? Des fois, la plupart des parents, quand il y a un enfant qui commence à transgresser les lois, à transgresser les lois de la société, je veux dire, et à transgresser ce que tu veux appliquer dans les chefs de cet enfant-là, des fois nous disons quoi? Il est toujours comme ça. N'est-ce pas vrai, les mamans? Ça me rappelle, en fait, une petite histoire que j'ai connue quand j'étais quelque part. Je prenais un bus pour aller dans une autre ville. Il y a une maman qui est rentrée dans le... D'abord, il y avait une mamie qui était entrée dans le bus. Et à l'arrêt suivant, il y a une maman qui est rentrée dans le bus avec son enfant, une jeune fillette de 5 ans à peu près. Ils ont monté à bord du bus. Et puis, la mamie était assise juste à côté. C'était un long bus où l'enfant pouvait se balader dans les allées comme elle attendait. Et alors, je l'ai vu s'arrêter parce que moi, j'étais de l'autre côté de l'allée. Je l'ai vu s'arrêter et puis regarder la mamie. Donc, une grand-mère, c'est ça la mamie. Oui, il regardait la mamie et elle a craché sur le visage de la mamie. Pouah, pouah, pouah. Et j'ai entendu sa maman dire, elle est toujours comme ça. J'ai dit, ça y est, ça c'est bien. Elle est toujours comme ça. Je ne sais pas si c'était vous, comment vous alliez vous comporter, comment vous alliez réagir. Et alors, la mamie est descendue à l'arrêt suivant. Et à l'autre arrêt, il y a un monsieur qui a appuyé sur le bouton arrêt demandé. Et il est descendu, il s'est avancé vers la porte de sortie et le machiniste a ouvert la porte. Et comme par malheur, la maman de la fillette était assise juste à la porte de sortie et lui s'est retourné pour aussi cracher sur le visage de la maman. Et puis en descendant, il a dit, et moi je suis comme ça. Et le machiniste a fermé la portière, et nous sommes partis. Et moi, derrière elle, j'ai dit, oh, on y a quoi ça, d'être comme ça. Mais bien aimé, nous devons placer des souvenirs dans les chefs de nos enfants pour qu'ils soient capables, oui, d'être reconnaissants par rapport à ce que nous avons été pour eux quand nous aurons les cheveux blancs et quand nous serons âgés. Il n'est pas question ici de dire « Oh, mes enfants ont toujours été comme ça ». Non, il faut le recadrer en tant que prophète pour leur montrer le chemin. Afin que quand ils seront vieux, qu'ils ne se détournent pas et qu'ils soient témoins de ce que toi tu es. Nous devons nous inscrire dans le cœur de nos enfants en leur apprenant ce qui est bien. Par rapport au texte de Hébreu, nous sommes placés devant une solidarité, mes bien-aimés. Nous sommes placés devant la solidarité envers à ceux qui conduisent. Une fois à l'âge de la retraite, nous avons cette obligation de voler à leur secours. Je vous ai montré que le pasteur est présent dans toute votre existence, ou bien tout le long de votre existence. Ce qui nous est demandé ici, c'est d'avoir des souvenirs, des bons souvenirs, vis-à-vis de ceux qui nous ont précédés, qui sont nos conducteurs, et d'agir d'une bonne manière à leur faveur. Et avoir des bons souvenirs à l'endroit de quelqu'un, c'est de reconnaître ce que Dieu a mis dans la personne à votre faveur. Mais bien aimé dans le Seigneur, Nous avons cette obligation d'être solidaires avec les pasteurs retraités ou les pasteurs qui vont à la retraite. Nous avons cette obligation de pratiquer notre générosité pour que, ensemble, nous puissions avoir des souvenirs des uns vis-à-vis des autres. Que le Seigneur bénisse sa parole.